Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Nous allons au verset 39 de ce même chapitre 16. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté, en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Et après avoir vu exhorter les frères, ils partirent. Entre ces deux lectures, il y a pas mal de versets, des versets que nous n'avons pas lus. Et dans ces versets, il faut savoir qu'il s'est passé beaucoup de choses. Une femme démoniaque, possédée par un esprit de Python, a été délivrée au contact de Paul. Et sa délivrance provoqua une réaction hostile de la part de ses propriétaires, parce que cette femme leur procurait un gain. Aussi, Paul et Silas furent jetés en prison. Et en prison, en pleine nuit, ils priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Et le Seigneur se manifesta en faisant trembler la prison et en brisant leurs chaînes. Le geôlier se réveilla, il allait se suicider, mais il fut sauvé in extremis, et même, il s'est converti à Jésus-Christ. Et après tout ça, ils retournèrent donc chez cette femme Lydie. Le chapitre 16 du livre des Actes nous rapporte l'arrivée de Paul en Macédoine, et plus exactement dans la ville de Philippe. C'est suite à une vision très claire et nette, celle d'un Macédonien qui était apparu en pleine nuit à Paul et qui lui avait dit « Passe en Macédoine, secours-nous ». C'est ce qui avait décidé Paul à traverser la mer pour venir en Macédoine. Paul aurait pu penser qu'avec une telle vision, si claire et si nette, les choses seraient faciles. Ce fut loin d'être le cas. Ce fut même le contraire. Dans la ville de Philippe, ils ont été battus, emprisonnés, mais ils ont aussi été délivrés d'une manière extraordinaire. Auparavant, lorsque Paul est arrivé dans la ville de Philippe, il y a passé plusieurs jours, et puis il a rencontré des femmes, et notamment Lydie. Et il nous est dit au sujet de Lydie que le Seigneur lui ouvrit son cœur. On la cite parfois comme la première chrétienne d'Europe, ce qui n'est pas vrai, puisqu'à la Pentecôte, il y avait déjà des Européens qui s'étaient tournés vers le Seigneur. Je voudrais que l'on se pose trois questions autour de l'expérience de cette femme Lydie. La première question. Que faut-il comprendre par l'expression « ouvrir son cœur » ? Le Seigneur lui ouvrit le cœur, c'est comme ça que c'est écrit. Le mot « ouvert » dans la Bible n'a pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Certaines personnes se disent ouvertes, se prétendent ouvertes à tout, à n'importe quoi. Elles veulent dire qu'elles acceptent tout, qu'elles tolèrent tout. Ça ne veut pas dire que ces gens s'intéressent à tout. Mais par expérience, j'ai remarqué que les personnes qui se prétendent très ouvertes sont plutôt fermées à l'Évangile. Surtout dès qu'on leur parle de l'exclusivité de l'Évangile. Et notamment le fait qu'il n'y a, en dehors de Jésus-Christ, aucune autre possibilité de salut. Elles sont souvent fermées à l'Évangile dès qu'on leur dit ou qu'on leur parle de la réalité du péché, de la nécessité d'être sauvé, de la nécessité de passer par la repentance. J'en ai vu des personnes se prétendant ouvertes, mais se fermer comme des huîtres dès qu'on leur a dit qu'elles étaient des pécheurs et qu'elles avaient besoin d'être sauvées. Dans Actes 17, les Athéniens devaient se prétendre très ouverts. Et lorsqu'ils ont entendu Paul parler sur des choses qu'ils ne connaissaient pas, ils l'ont invité à l'aréopage pour s'adresser à eux. Paul a commencé à les bousculer dans leur conscience. Il a notamment parlé de Jésus et de repentance. Et là, ils ont dit « On t'écoutera une prochaine fois ». Et pour beaucoup, il n'y a jamais eu de prochaine fois. Pour comprendre en quoi le cœur de Lydie s'est ouvert, Il nous faut comprendre en quoi il était fermé. La Bible nous enseigne que le cœur de l'homme est fermé, dans le sens d'être coupé, séparé de Dieu. De Corinthiens, chapitre 3, verset 14. Il est écrit au sujet des Juifs, de l'Ancien Testament. « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Un petit peu après, dans ce même passage, Paul dit que l'Évangile est voilé parce que Satan, le Dieu de ce siècle, a voilé l'intelligence des hommes. C'est clairement dit, il y a une séparation dans le cœur de l'homme, une séparation qui l'empêche de comprendre, de saisir, de voir. Cette séparation s'appelle le péché qui aveugle l'homme. Dans un autre passage, Jésus dira à Nicodème, « Si tu nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. » En parlant ainsi, Jésus montrait à Nicodème qu'il avait les yeux voilés, fermés. On a une expression comparable dans Luc chapitre 24, verset 32, quand il est écrit « Alors leurs yeux s'ouvrirent ». Il s'agit des disciples d'Emmaüs. Et un petit peu après, dans Luc chapitre 24, verset 45, Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ce mot « ouvrir » est utilisé dans trois sens dans le Nouveau Testament. Dans le sens d'un aveugle qui ouvre ses yeux ou d'un sourd qui ouvre ses oreilles. Il est aussi utilisé dans le sens d'ouvrir les yeux de son cœur, c'est ce que nous avons vu. Mais il est aussi utilisé dans le sens de l'enfant, qui ouvre la matrice, du premier-né même. Le Seigneur ouvrit son cœur, revient à dire que Dieu l'a fait naître de nouveau. Lydie est devenue une nouvelle créature. Par cette expérience, elle est devenue sensible et réceptive aux choses de Dieu. Cette expérience de la nouvelle naissance, elle est absolument indispensable. Il te faut naître de nouveau pour que les yeux de ton cœur s'ouvrent. La nouvelle naissance signifie que la personne a expérimenté le salut. Il n'y a rien de plus beau et de plus émouvant que d'accompagner ou d'assister à une nouvelle naissance. Parfois, dans mes entretiens, j'ai eu le sentiment d'être un peu comme une sage-femme, avec des personnes désireuses d'être sauvées, mais ne sachant pas comment s'y prendre. Alors on les aide à se placer devant Dieu. On les invite à mettre leur cœur en pleine lumière, à confesser leurs péchés sans fard, à Dieu. Et puis on pointe vers Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et là, souvent, le Saint-Esprit fait son œuvre, une œuvre de régénération, de nouvelle naissance. Je pense à ce jeune homme qui voulait vivre l'Évangile comme ses parents le vivaient. Et il ne savait pas comment faire. Il avait entendu, il connaissait, mais il n'avait pas vécu. Alors je l'invitais à reconnaître que c'était un pécheur qui avait besoin de la grâce. Je l'invitais à demander à Jésus-Christ de le sauver. Il l'a fait. Le moment fut doux et intense. J'ai su à ce moment-là qu'il était en train de naître de nouveau. Le dimanche, quand je l'ai vu arriver au culte, il était radieux, lumineux, joyeux, parce qu'il était né de nouveau, parce que son cœur avait été ouvert. Et moi, j'étais réjoui aussi. La deuxième question, qu'est-ce que l'ouverture de son cœur a produit? Au-delà du fait que l'ouverture de son cœur signifie que le salut est entré, il y a d'autres effets qui vont avec. Le premier effet de la nouvelle essence, ou de sa nouvelle essence, fut pour les dix sa capacité à saisir et à fixer son attention sur la parole de Dieu. Être attentif signifie ici garder, fixer, s'attacher. La nouvelle essence a conduit Lydie à s'attacher à l'Évangile dans le sens d'y réfléchir dessus, de l'intégrer, de l'assimiler de se l'appliquer et de se laisser transformer par celui-ci. Je cite 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. C'est un fruit de la nouvelle naissance, cette capacité à saisir et à garder, à recevoir l'évangile. Le deuxième effet de sa nouvelle naissance fut son engagement par le baptême. Lydie était manifestement une femme de tempérament. Elle était commerçante et elle avait su se faire une place dans un milieu d'hommes. Mais quand il a été question de s'engager avec le Seigneur, elle n'a pas calculé en disant « Ouh là là, si je me positionne en tant que chrétienne, ça va peut-être me faire perdre quelques clients, peut-être des gros clients. Ça va peut-être me fermer quelques portes dans la ville, quelques contacts avec des notables de la ville. » Plusieurs fois, j'ai vu des personnes nées de nouveau, mais tergiversées, partagées, calculant et finalement ne s'engageant pas dans le baptême. Forcément, cette indécision ne peut pas durer. Leur ancienne vie va les rattraper. Ce n'est qu'une question de temps. Lorsque Paul et Silas sont sortis de prison, ils sont revenus chez Lydie. Et Lydie ne leur a pas dit, vous savez, avec le tumulte et l'agitation que vous avez provoqué dans la ville, je préfère ne pas vous recevoir en ce moment. J'attends que ça se calme et je verrai plus tard. Non, elle les a reçus. Elle est demeurée dans son engagement. Le troisième effet de sa nouvelle naissance fut son influence sur sa famille. Quand son cœur s'est ouvert, elle en a parlé à sa famille, peut-être à son mari, ses enfants, ses serviteurs. Elle leur a communiqué le désir de connaître Jésus. Sa foi a été contagieuse et elle a su entraîner sa famille dans la foi. Le fait qu'elle a été baptisée avec sa famille ne justifie pas le baptême des enfants. Cela montre qu'elle a su en parler et que dans sa famille, ceux qui étaient proches d'elle se sont tournés vers Jésus-Christ. Nous comprenons par contre que les choses allaient rapidement entre l'annonce de l'évangile, leur conversion et leur baptême dans le livre des Actes. On est dans un contexte de démarrage, on est dans un contexte d'ouverture. Le quatrième effet de sa nouvelle naissance est sa mise au service de Paul et de son équipe. Elle va leur ouvrir sa maison, elle va les recevoir chez elle. Sa demande, si vous me jugez fidèle, s'explique par le fait qu'elle avait fréquenté la synagogue et elle savait que les juifs n'entraient pas chez les non-juifs. Elle se montre comme une commerçante qui donne gratuitement, généreusement. Vous savez, quand on est commerçant, il faut faire attention à ce que la peur de manquer ou la nécessité de vendre, le sens des affaires, nous amène à ne plus savoir fonctionner gratuitement. J'ai trop vu de commerçants, parfois chrétiens, qui voyaient dans les frères et les sœurs de potentiels clients. Et ça, c'est mauvais. L'Église n'est pas un marché et elle ne doit jamais être vue comme cela. Mais j'ai vu des commerçants chrétiens qui voyaient dans leurs clients des gens à aimer et à amener à la foi. Et ça, c'est bon. Lydie a ouvert sa maison. Elle s'est mise à donner. La nouvelle naissance fait de nous des gens tournés vers les autres. Elle nous transforme. Et ça, c'est quelque chose de beau. C'est un beau signe de la nouvelle naissance. Le cinquième effet de sa nouvelle naissance est son humilité. Si vous me jugez fidèle. Lydie n'était pas femme de ménage, et je dis cela sans manquer de respect pour celles qui le sont ou ceux qui le sont. Lydie était une femme d'affaires, marchande de pourpre. Le pourpre était une teinture rouge foncé, très chère, utilisée pour teindre les étoffes. Elle était donc dans le haut de gamme, et ses clients étaient des gens riches. La nature de son commerce lui ouvrait les portes des notables de la ville. Et pourtant, elle dit à Paul, « Si vous me jugez fidèle, cette parole respire l'humilité. Elle s'en remet à leur jugement. » Un texte de la Bible, Proverbe 27, verset 2, dit « Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » On peut prétendre sa fidélité, mais c'est mieux que d'autres puissent la constater sur nous. Pareil pour l'humilité. L'humilité est une condition à la réception de la grâce de Dieu, mais elle est aussi un effet produit par celle-ci. La compréhension de la grâce, la découverte de celle-ci, devrait nous amener à encore plus d'humilité. Voilà ce que doit produire la vie nouvelle en Jésus-Christ. Elle peut produire beaucoup d'autres choses, mais c'est beau ce qui est mentionné au sujet de cette femme Lydie, dans le peu de versets que nous avons lus. Et une troisième question qui peut se poser. Pourquoi le Seigneur a ouvert son cœur à elle? Il y avait d'autres femmes qui étaient présentes au bord de la rivière. Alors peut-être que ces autres femmes ont expérimenté sa grâce et ce n'est pas écrit. Mais peut-être pas. D'abord, je voudrais dire que le Seigneur fait grâce à qui il veut. Pourquoi Dieu va entrer dans la vie d'un tel et ne pas rentrer dans la vie d'un autre? Dieu ne nous le dit pas. Ce que je sais, c'est que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il pèse les cœurs et il n'agit pas au hasard. Si une rivière passe par tel tracé, il y a une explication géologique, géographique, climatique, topographique. C'est pareil avec la grâce. Et cette manière de parler, le Seigneur lui ouvrit le cœur, souligne la souveraineté de Dieu dans le salut des pécheurs. Et aussi que le salut des pécheurs, c'est son œuvre. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. La Bible souligne, par ailleurs, la volonté divine de sauver tous les hommes. Maintenant que j'ai dit ça, je voudrais ajouter qu'on observe chez cette femme une attitude qui attire la grâce de Dieu. Une attitude qui a permis la connexion. Elle cherchait Dieu. Elle avait soif de Dieu. Sa recherche s'observe par le fait qu'elle était avec d'autres femmes qui se tenaient près de la rivière pour prier. Paul avait su qu'il y avait des personnes qui se tenaient là, et c'est pourquoi il s'y est rendu. Elle se tenait là probablement parce qu'il n'y avait pas, de synagogue. Il fallait un minimum de 10 hommes juifs dans une ville, ou parce que la synagogue leur était interdite d'accès. Sa recherche s'observe aussi par le fait qu'elle était une femme craignant Dieu. Cette expression se retrouve plusieurs fois dans le livre des Actes, notamment au sujet de Corneille, dans Actes 10, verset 12, mais aussi dans Actes 13, verset 16, Actes 13, verset 26. Cette expression craignant Dieu, servait à désigner des personnes non juives, attachées au judaïsme, mais qui ne pratiquaient pas toutes les prescriptions relatives à la loi. Cette femme d'origine païenne s'était donc mise à croire dans l'Ancien Testament, dans l'Éternel, dans ce que les Juifs croyaient. Tout cela démontre donc, chez Lydie, une recherche, une soif, comme chez Corneille d'ailleurs. Cette soif, on l'observe aussi dans sa disposition à écouter. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il nous est dit que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient au travers de la parole de Christ. Lydie écoutait parce qu'elle voulait comprendre. La Bible parle de personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais finalement qui ne veulent pas la comprendre. Dans Matthieu chapitre 13, verset 14, Jésus a une parole assez dure vis-à-vis de certaines personnes. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Jésus fait le lien ici entre le fait d'avoir les yeux ouverts et le fait de comprendre. Et nous dit que les personnes ne comprennent pas l'évangile, non pas parce qu'elles ne le peuvent pas, mais plutôt parce qu'elles ne le veulent pas. Jésus montre ici que l'incompréhension d'évangile est souvent due à ou liée à une forme de refus. Ils ont endurci leur cœur et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne comprennent et ne se convertissent. Pour Lydie, cette recherche, cette écoute, ont permis à Dieu de lui ouvrir son cœur. Elle a accepté la révélation divine, le voile s'est déchiré, le cœur s'est ouvert, et tout est allé très vite dans son expérience. Ma prière, c'est que le Seigneur ouvre aussi votre cœur sur la personne de Jésus, sur son œuvre à la croix, sur sa parole, sur le changement que Dieu veut opérer dans votre vie. Il est absolument indispensable que Dieu ouvre votre cœur. Ça veut dire, il est absolument indispensable que Dieu fasse de vous une nouvelle créature. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui l'opère. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Mais vous avez quand même une clé à actionner. C'est à vous de vous présenter à Dieu. C'est à vous de vous reconnaître comme pécheur. Et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me sauver. Si vous faites cela avec un cœur vrai, vous expérimenterez le salut et la grâce de Dieu. Je prie pour vous maintenant. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui entendent ce message, certainement dit maladroitement. Mais je prie pour que tu ouvres leur esprit, leur cœur. Ouvre-le, déchire le voile et qu'ils puissent saisir ce que Jésus a fait sur la croix. Qu'ils comprennent dans quel but tu l'as fait pour le pardon des péchés. Qu'il a une prise de conscience. Seigneur, communique la vie nouvelle maintenant. Au nom de Jésus. Amen.